L'Afrique du Sud a accusé Israël de génocide à Gaza et a même l'intention de demander à l'ONU de réagir en la matière. Et donc, en réponse à l'accusation de génocide à Gaza portée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice de La Haye, Israël compte, et on vous le disait hier, se présenter devant cette cour pour contester la plainte. Et on parle de ses implications, des implications de ces accusations avec David Jaoui, il est avocat international et anciennement au ministère des Affaires étrangères israélien. Et ma chère Lucie, il répondait à vos questions.
Après que l'Afrique du Sud ait déposé une plainte contre l'État hébreu, l'accusant de génocide à Gaza, Israël compte se présenter devant la cour et se défendre. La plainte inclut notamment une injonction provisoire pour la suspension immédiate des activités militaires israéliennes dans le territoire palestinien. Pour nous aider à analyser cet événement, notre invité d'aujourd'hui est David Jaoui, avocat international, anciennement au ministère des Affaires étrangères israélien. David Jaoui, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Pour commencer, comment analyser cette plainte ?
Il faut, je pense, avant même de rentrer dans les détails de la plainte, il convient de souligner une différence fondamentale que l'on peut oublier au regard des articles du journal. La Cour internationale de justice auprès de laquelle l'Afrique du Sud a déposé sa plainte n'est pas la Cour pénale internationale. On a tendance à confondre les deux, notamment puisque les deux ont le même siège à La Haye, mais il s'agit de deux institutions bien différentes. La Cour pénale internationale, qui est celle qui fait généralement les titres et sur laquelle on se concerne de façon plus sérieuse, est une cour qui juge des présumés crimes de guerre commis par des individus et à ce titre, elle a des compétences beaucoup plus larges en ce qu'elle peut imposer à des officiers israéliens, des membres du gouvernement israélien, etc. On peut en parler plus longuement après. La Cour internationale de justice, quant à elle, celle dont on parle en l'espèce, est-elle une institution dont la seule compétence est de régler les litiges entre les États? Par conséquent, la dossier que l'action en justice que l'Afrique du Sud a présenté est une procédure qui met en parallèle l'État-nation Afrique du Sud d'un côté et les présumés dommages ou torts qui lui seraient causés du fait du présumé génocide par l'État israélien du peuple palestinien à Gaza. D'ores et déjà, rien que par la formulation que je vous ai donnée, vous pouvez comprendre l'absurde de cette situation. Car en effet, quel droit, quel standing, dit-on en langage juridique international, l'Afrique du Sud pourrait-elle alléguer pour se lui donner compétence de présenter des procédures au nom du peuple palestinien, au nom du Hamas à Gaza ou que sais-je. Et c'est là qu'on voit un peu l'absurdité de cette situation. En effet, Israël a déclaré qu'elle va participer à sa défense, puisqu'à la défense de la Cour pénale internationale, Israël est bien une partie à la Charte des Nations Unies. Elle est donc soumise à la juridiction de la Cour internationale de justice, mais elle va se trouver dans cette situation complètement absurde où elle va se présenter devant des avocats sud-africains venant se plaindre d'actes qu'elle a commis dans les territoires palestiniens. On a un exemple classique de ce que l'on appelle la politisation du droit international. Pour un internationaliste comme moi, qui croit vraiment en la valeur que le droit international a pour améliorer le sort de l'humanité, je trouve que c'est déplorable et c'est assez risible.
Alors justement, vous analysez comme un peu absurde cette plainte. Donc, Israël a-t-il raison d'accepter de se défendre devant cette cour si c'est si ça a si peu d'impact?
Je pense malheureusement qu'on est dans une situation de, les Anglais disent damned if you do and damned if you don't. Si Israël ne présente pas de défense dans cette procédure, eh bien, on risque de voir se répéter le genre de scénario que l'on a eu avec le rapport Goldstone après l'opération Plan Durci en 2009, ou les dernières actions qui ont été faites devant la Cour pénale internationale. par laquelle la partie adverse, en fait, a la liberté d'alléguer tout et n'importe quoi, et où forcément, n'importe quel juge, mais avec la meilleure des intentions, sera bien forcé de rendre des décisions qui risquent d'être préjudiciables à Israël. Et comme je le répète, encore une fois, Israël, en tant qu'État membre des Nations Unies, signataire de la charte des Nations Unies, et donc soumise à la compétence de la Cour internationale de justice, ce serait un affront d'une nature particulière que de ne même pas présenter une délégation là-bas. Donc, elle est bien obligée, un peu malgré elle, de venir présenter ses arguments. En fonction dont les audiences se passeront et des décisions que feront les juges, comment dirais-je? Il serait bien approprié de réévaluer le rôle qu'a la Cour de justice internationale au vu de ce qui s'y déroule, de la façon dont les audiences se dérouleront. Ce que j'essaie de vous dire, en fait, c'est que jusqu'à aujourd'hui, la Cour internationale de justice n'a pas été, comme le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, un espèce de forum où l'Israël bashing était à la mode et où les pires tyrannies tiers-mondistes pouvaient se dorer le blason en utilisant des arguments militaires. La Cour internationale de justice est vraiment supposée être une institution judiciaire qui tient des délibérations avec le respect des procédures. Donc, nous verrons bien. Nous verrons bien en l'espèce.
Alors justement, vous avez dit que ça dépendrait en fait de la manière dont Israël se défendrait. Donc selon le média israélien Inet, Israël pourrait demander l'inclusion d'un juge israélien dans le panel de la Cour. Le nom d'Alan Dershowitz a notamment été évoqué. Comment évaluez-vous l'impact potentiel de cette nomination sur la défense d'Israël?
L'impact, il est essentiellement symbolique, puisque même si Alan Dershowitz ou un autre juge du même calibre, d'ailleurs, j'ai rien contre Alan Dershowitz dans l'absolu, avec malgré tout ce que certains ont pu lui reprocher sur ses activités internes dans l'arène politique américaine, il est néanmoins reconnu comme étant un juriste qui maîtrise parfaitement les questions de droit international et qui a souvent su les articuler. De façon particulièrement éloquente en ce qui concerne le cas d'Israël. Donc certainement, ce serait une voix au sein de la Cour qui ferait entendre le genre d'argument que Israël voudrait, que je pense par ailleurs être vraiment représentatif de ce qu'est le droit international. En revanche, ce n'est qu'une voix parmi 15 juges. Et donc, la capacité qu'il aura à influencer l'ensemble, elle est sujette à question, mais ce serait une bonne chose.
Alors revenons un peu à la plainte en soi. Est-ce selon vous une tentative supplémentaire pour faire pression sur Israël quant à sa gestion du conflit à Gaza? Et si oui, est-ce que ça pourrait avoir un impact concret?
Dans l'immédiat, il y a deux éléments, deux parties à votre question. En ce qui concerne son impact, l'impact immédiat, il est négligeable, voire inexistant, puisque la Cour internationale de justice n'a pas vraiment de compétences pour émettre des ordres exécutoires. Certainement, l'impact diplomatique, lui, peut être plus sérieux. Puisque les gens qui voudront se targuer du droit international pour mener leur critique d'Israël auraient à ce moment-là une autre corde à leur arc. On pense notamment au mouvement de BDS, des sanctions et du désinvestissement d'Israël qui pourrait clamer haut et fort, regardez, Israël, encore une fois, mène des actions contraires au droit international. Et ça rejoint un peu le propos que je tenais en début de notre interview, à savoir que l'Afrique du Sud, quel est le raisonnement derrière cette plainte? L'Afrique du Sud sait pertinemment qu'aucune mesure opératoire ne va vraiment sortir de cette procédure. Et donc, elle n'est pas du tout, si quand bien même on pouvait penser qu'elle avait un espèce d'élan humanitaire qu'elle voudrait sauver des vies palestiniennes devant l'acharnement des obus israéliens, il n'en serait rien. Ce n'est pas comme ça qu'elle procéderait. C'est bien la preuve qu'il s'agit d'un acte éminemment politique, voire diplomatique, et qui contribue à la paupérisation du droit international au sens où on l'entendait au début des années 50 quand il a été créé, je le dis, soit dit en passant, au lendemain de la Shoah. Lui, vrai génocide. Le droit international humanitaire se voulait d'empêcher ce genre d'atrocité aujourd'hui, et on voit qu'il est utilisé à des fins autres par ceux qui voudraient s'en réclamer.
Alors justement, s'agissant des relations entre Israël et l'Afrique du Sud, comment lire en fait cette plainte? Comment interprétez-vous les rappels d'ambassadeurs et la réévaluation des relations diplomatiques entre ces deux pays? Est-ce que ça va avoir un réel impact?
L'Afrique du Sud n'est pas le premier partenaire diplomatique ou économique d'Israël, mais cela s'inscrit dans un contexte généralisé où Israël se sent de plus en plus isolé, et en particulier devant ce que j'appelle le camp des progressistes, le camp des libéraux dans l'Occident, l'Afrique du Sud post-apartheid, l'Afrique du Sud qui est née des cendres de l'apartheid menée par Nelson Mandela, c'est un peu un des porte-flambeaux de ce mouvement-là. Donc certainement, c'est regrettable et c'est un coup diplomatique.
Ma dernière question, quelles pourraient être les implications à long terme de cette stratégie sur la réputation d'Israël sur la scène internationale?
Sur le long terme, ça s'inscrit dans une longue lignée de directives, de décisions dans les Nations Unies et auprès de certains organismes qui lui sont autour, qui, de façon générale, dépeignent Israël comme étant un régime violateur du droit international, un régime d'occupation, un régime d'apartheid, tous ces termes qui ont été balancés à vol-au-voix. Dans les 10 à 20 dernières années, utilisés complètement de leur contexte, s'y joindront désormais un compagnon nouveau, celui de génocide. On a encore du chemin avant que ça en arrive là, mais potentiellement, c'est ça le chemin. Et c'est bien ce qui montre l'importance pour Israël, le pays post-génocide par excellence, de lutter contre cette tare-là. Et de faire valoir ses arguments de la meilleure façon qui soit.
Eh bien, David Jaoui, je rappelle que vous êtes avocat international, anciennement au ministère des Affaires étrangères israélien. Je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci à vous et bonne journée à tout le monde.